Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la trottinette nous fait-elle perdre les pédales ? Scène vécue à Paris il y a quelques jours dans le 12e arrondissement. Un piéton, excédé par la présence sur le trottoir d'une trottinette électrique, s'empare de l'engin et le fait voltiger. Il atterrit, l'engin, pas le piéton, au milieu d'une piste cyclable, moment d'énervement devenu presque ordinaire dans une ville désormais divisée en deux camps, ceux qui font de la trottinette et les autres. Alors, combien sont-elles aujourd'hui à avoir investi les trottoirs de la capitale et des autres grandes villes françaises ? Leur développement est en tout cas fulgurant. À Paris, 7 sociétés de location ont pris d'assaut le marché depuis l'été dernier. Et il est vrai qu'il y a de quoi être séduit par ces nouveaux outils de locomotion, légers, disponibles, pratiques, écolos. Tout comme il y a de quoi être exaspéré par ces espèces invasives, encombrantes, dangereuses et d'une durée de vie particulièrement réduite, 28 jours en moyenne. La trottinette électrique est devenue un symbole des difficultés à partager un espace public qui n'a pas été conçu pour cet usage. Elle révèle aussi certains aspects de l'évolution de notre société. Alors la trottinette nous fait-elle perdre les pédales ? Discussion du soir en compagnie de trois invités. Jérôme Monnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'Université Paris-Est et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Pour discuter avec vous, Adrien Lelièvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au quotidien Les Échos. Vous y êtes en charge des mobilités, des micro-mobilités. Vous avez signé plusieurs articles consacrés à cette invasion des trottinettes.
Absolument.
Et puis notre troisième invité, il est au téléphone depuis Rennes. Il s'agit d'Éric Le Breton. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Rennes 2. Je citerai votre dernier ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Apogée, Mobilité, la fin du rêve. Alors la première question, elle s'impose à vous trois. Est-ce que vous êtes, vous aussi, des usagers de la trottinette, qu'elle soit électrique ou qu'elle ne le soit pas, Jérôme Monnet ?
Alors, en fait, j'ai jamais utilisé une trottinette électrique, mais...
Même quand vous étiez petit ?
Non, même alors quand j'étais petit, il n'y avait pas de trottinette électrique, voilà. Mais en revanche, il y a 10 ans, quand le phénomène était tout juste émergent, m'en acheter une de ces trottinettes, nouvelles trottinettes pour adultes, alors pas encore motorisées, pas encore électriques, dans un magasin de sport.
Et elle est où aujourd'hui cette trottinette ?
Elle est rangée quelque part au fond d'un placard chez moi. Disons que bon, j'expérimente beaucoup de formes différentes. J'utilise mes propres pratique comme des formes d'expérimentation, donc j'avais pas à résister, j'ai essayé les rollers, ça a pas plus tenu que la trottinette.
Et pour vous, Adrien Lelièvre ?
Comme j'écris beaucoup sur le sujet, j'ai testé la plupart des opérateurs à Paris. D'ailleurs, vous avez dit dans votre introduction qu'il y avait 7 opérateurs, mais il y en a 9 désormais.
Ah, c'est 9 désormais, ouais, ça va vite.
Ça va très vite, et puis d'autres arrivent. Et donc, j'ai testé ces moyens de mobilité, et il faut reconnaître que c'est assez ludique, et on aura sans doute l'occasion de revenir là-dessus. C'est sans doute un des succès en fait, du développement de ce moyen de transport.
Oui, il faut quand même dire qu'il y a quelque chose d'assez plaisant à faire de la trottinette. Qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs ? Enfin, dites-le-moi, à moi qui n'en ai plus fait depuis de très longues années.
Moi, je pense que ça évoque beaucoup de souvenirs à ceux qui ont fait de la trottinette classique pendant l'enfance, par exemple. Donc, il y a un côté un peu régressif à utiliser ces engins, et puis on a l'impression de glisser quelque part à vive allure dans l'espace public, et c'est une sensation qui est finalement assez agréable.
Éric Le Breton, êtes-vous un adepte de cette régression ?
Non, absolument pas. Je n'ai jamais pratiqué ni la patinette ni la trottinette. J'ai longtemps pratiqué le scooter, et je suis un cycliste et un piéton et un usager des transports collectifs partout où je vais.
Je le disais, vous nous appelez depuis Rennes. Est-ce que la ville de Rennes accueille, elle aussi, ces nouveaux moyens de locomotion ?
Oui, bien sûr, comme ailleurs, mais ça doit représenter 0,0 du départ modal de la mobilité, comme dans la quasi-totalité des villes françaises, excepté Paris, qui a un profil très très particulier en matière de mobilité. Donc, la trottinette se développe un petit peu à Paris, il ne faut sûrement pas non plus exagérer les chiffres, c'est une espèce de mode, il y a des modes comme ça dans le domaine de la mobilité, mais ailleurs, que ce soit, j'ai été à Marseille il n'y a pas très longtemps, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, la trottinette est quelque chose de presque invisible.
Et les Parisiens sont sans doute un petit peu comme les Marseillais, ils ont tendance à exagérer. C'est vrai, quand on voit un certain nombre de trottinettes, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça dans les rues de Paris. Mais qu'est-ce qui fait d'ailleurs, Adrien Lelièvre, puisque c'est le titre d'un article que vous aviez signé il y a quelques temps, que Paris est devenue la capitale, pas seulement française, mais mondiale, dites-vous, de la trottinette ? et de la trottinette électrique?
Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première, je pense que c'est la géographie de la ville. Paris, d'est en ouest et de nord au sud, on la traverse en une dizaine de kilomètres à peu près. C'est aussi une ville qui a une densité exceptionnelle puisqu'il y a 2,2 millions d'habitants à peu près. Il y a aussi un réseau de transport qui est très 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 dense. Et donc en fait, la trottinette se prête assez bien à des transports en complément des transports en commun. Et puis il y a un autre aspect qui peut être important. Il y a une municipalité qui fait la guerre à la voiture, je pense qu'on peut le dire. C'est un des objectifs en tout cas d'Anne Hidalgo de réduire la part modale de la voiture dans les déplacements. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, voilà une ville avec beaucoup d'habitants, où il y a un certain pouvoir d'achat aussi, avec une densité très 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 forte, et où en fait il y aura sans doute moins de voitures. Donc il y a sans doute de la place pour des opérateurs comme nous de gagner de l'argent sur ce créneau.
Est-ce que le professeur d'urbanisme que vous êtes, Jérôme Monnet, partage cette analyse pour expliquer pourquoi Paris s'est retrouvé soudainement en quelques semaines envahi par les trottinettes?
Alors, étant de formation géographe, je ne peux pas résister à la proposition d'explication qui est déterministe géographiquement concernant la morphologie de la ville, concernant l'offre de transport. Bon, je crois qu'il faut aussi ajouter autre chose, c'est que on est en train de parler non pas de la trottinette, mais de la location en libre service de trottinettes motorisées.
Voilà, c'est-à-dire c'est pas forcément l'objet qu'on a chez soi, mais c'est l'objet qui peut prendre comme on le souhaite en libre service sur le trottoir, enfin sur le trottoir ou ailleurs, hein, ça dépend où elle a été rangée.
Il faudra à un moment, je ne sais pas si on prendra beaucoup de temps pour cela, mais rappeler qu'en fait on utilise le mot trottinette à la fois. On va dire, on le réduit à cette offre de trottinettes en libre service, alors qu'il y a des trottinettes qui sont des propriétés privées, que l'on peut utiliser dans toute une série d'autres circonstances que là où il y a de l'offre de trottinettes en libre service. Il faut rappeler qu'il existe d'autres offres de petits véhicules en libre service, à commencer par les vélos, les scooters, il y a aussi des voitures en libre service. Donc, d'une certaine façon, les entreprises, les neuf prestataires que vous évoquiez sont les derniers venus dans une série. Donc, en quelque sorte, le modèle de l'économie de plateforme, du free floating, etc., c'est pas les offreurs de trottinettes qui l'ont mis en place. Alors, on peut se poser la question. Vous le savez, pour les voitures, est-ce que ça marche? Pour les vélos, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la transition du délégataire. On a eu un effet d'opportunisme, un peu ce que vous évoquez concernant les trottinettes, c'est-à-dire une sorte d'analyse par des entreprises de dire c'est le moment d'inonder le marché. Et puis vous avez vu que ça s'est déjà dégonflé. Alors, on pourra se poser la question sur l'offre de trottinettes en libre service, parce que j'insiste là-dessus, il y en a d'autres.
Oui, c'est pas impossible que si on refait l'émission dans un an, on fasse le constat que les trottinettes électriques en libre service ont entièrement disparu des rues des grandes villes. Ça, on verra bien d'ici là. Éric Le Breton, quand on vous a proposé de participer à l'émission, nous avez répondu notamment en disant que vous voyez dans le développement de ces différents modes de locomotion qu'on appelle qui participent des micro-mobilités et notamment avec le libre service, vous faisiez un lien, en tout cas vous, avec la gentrification. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aborder la trottinette, analyser la trottinette en même temps que tous les outils de la glisse urbaine qui sont en train d'émerger, les overboards, les monoroues, les gyroskates, etc. Et puis rapprocher ces nouveaux outils du vélo, bien évidemment. Et si on regarde cet ensemble, il est en train de prendre une place plus ou moins significative selon les villes, mais en tout cas significative dans la douzaine des grandes agglomérations françaises. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, ces grandes agglomérations se transforment extraordinairement, de plus en plus d'emplois, de plus en plus de cadres, de plus en plus de qualité urbaine. Et donc, ce que l'on appelle en termes économiques la métropolisation, elle est fortement couplée à une certaine gentrification. Donc, pour moi, en termes un petit peu global, si vous voulez, je vois d'un côté le développement de la trottinette sur une quinzaine de grandes métropoles françaises, et puis de l'autre, des ruraux, des périurbains qui dépensent de plus en plus d'argent dans le paiement de la voiture de plus en plus d'argent, c'est-à-dire pour les ruraux, 20% du budget mensuel qui est consacré à la voiture.
Ça voudrait dire, Éric Le Breton, que la trottinette électrique ou le gyropode ou l'overboard, ce sont des panoplies qui seraient les nouvelles panoplies de ce qu'on appelle les bobos ?
Non, pas, oui, un petit peu, on peut le dire comme ça pour dire les choses très très vite, mais pour les dire de manière moins radicale peut-être, il faut quand même noter que depuis 50 ans, la totalité des innovations de mobilité urbaine, 100% des innovations de mobilité urbaine, sont concentrées au cœur d'une grande poignée de métropole. Si on fait le point, le retour du piéton, le retour du vélo, les voitures en libre-service, les voitures électriques, les beaux lieux mouvements que sont les belles gares, les beaux métros, etc., etc., que l'on a partout, tous ces modes maintenant de glisse urbaine qui sont en train de gagner une certaine légitimité dans les villes, tout ça dans les cœurs d'agglomération, et puis depuis 50 ans, les territoires qui entourent ces métropoles, c'est-à-dire les territoires de la géographie prioritaire, le périurbain, le rural dans toute sa profondeur, et puis les petites agglomérations, elles sont non seulement ne reçoivent rien en matière d'innovation, mais sont privées de ce qu'elles ont eu pendant quelques décennies, l'écart interurbain, et puis les trains interurbains. Donc la trottinette, elle participe quand même d'une rupture très très fort.
En tout cas, elle illustre cette rupture, en effet, Éric Le Breton, et c'est justement l'objet de cette émission que de voir à travers la trottinette électrique ce que ça révèle de l'évolution de la société. Je vous ai vu réagir, Adrien Leliev, quand j'ai dit les bobos seraient les adeptes privilégiés de la trottinette. Ça coûte cher de se servir de ces véhicules en libre service?
C'est 1 euro par trajet plus 15 centimes par minute d'utilisation. Donc si vous faites de la trottinette pendant un quart d'heure, ça peut vous coûter à peu près 3 euros. Pendant une demi-heure, ça peut vous coûter 4-5 euros. Après, en fait...
Donc ça coûte un peu plus cher que de prendre le métro,
bien sûr. Après, effectivement, c'est un phénomène très urbain et on sait que les cadres, les personnes diplômées vivent dans les villes. Par contre, c'est quand même compliqué de savoir à l'heure actuelle si c'est un phénomène réservé aux bobos, si tant est que ça existe vraiment, le terme bobo. Parce qu'en fait, il n'existe pas encore d'études sociologiques pour savoir qui sont véritablement les utilisateurs de ces nouveaux moyens de mobilité. Donc il faudrait que les chercheurs, il y en a autour de cette table, se penchent vraiment sur la question pour qu'on puisse déterminer qui sont ces personnes et surtout quel était leur précédent mode de transport, par exemple. Est-ce que les personnes qui aujourd'hui se mettent à la trottinette, qu'elles soient partagées ou qu'elles soient individuelles, étaient d'anciens utilisateurs de la voiture? Est-ce que c'était d'anciens piétons? Est-ce que c'était d'anciens cyclistes? Et puis, en fait, on a du mal finalement à mesurer encore l'impact de ces nouveaux moyens de transport parce qu'on ne sait pas qui sont ces utilisateurs et puis en plus on ne sait pas non plus si c'est un phénomène durable parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, on a annoncé il y a quelques années que le vélo en free floating serait une lame de fond et en fait finalement ça s'est dégonflé presque aussi vite que c'est arrivé. Donc pour l'instant c'est compliqué de savoir qui sont les utilisateurs et où ça nous mènera.
Peut-être qu'au-delà de l'aspect ludique qui n'est pas à négliger, Jérôme Monnet, on peut aussi imaginer que ce sont des modes de locomotion qui peuvent être utile dans le cadre des aménagements, on va dire, des différents transports, pas seulement dans les centres-villes, mais aussi dans le périurbain.
Oui, avant de vous répondre, et ce qui va faire écho à ce qu'a dit Éric Le Breton, je réagis à ce qu'a dit Adrien et je confirme, c'est-à-dire que il nous manque de la recherche sérieuse sur, on va dire, la rationalité des usagers de la trottinette. Donc qu'est-ce qui l'a justifié, pourquoi ce phénomène a émergé, pourquoi aussi rapidement il est adopté, etc. Et c'est quand même préoccupant de savoir que on va avoir une nouvelle loi, la loi d'orientation des mobilités, qui a déjà commencé à catégoriser le phénomène avec zéro connaissance dessus. C'est-à-dire que on n'en sait rien, mais on va déjà commencer à réguler. Vous voyez le problème.
Alors, c'est une loi qui vient d'être adoptée au Sénat, qui va passer à l'Assemblée nationale, et on verra bien quand elle sera définitivement adoptée.
Exactement.
Dans quelques semaines.
Donc pour vous répondre et pour raccrocher à ce que disait Éric Le Breton sur cette dichotomie entre les grandes métropoles et les autres villes ou les autres espaces en France et ailleurs dans le monde, et la dichotomie dichotomie interne aux grandes métropoles entre le suréquipement en mode de transport des centres et le sous-équipement. Alors, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux périurbains lointains, comme c'était mentionné, mais les banlieues proches même sont très inégalement desservies par tous les modes de transport, avec des infrastructures en mauvais état ou des choses comme ça.
Et donc, et plutôt que d'ouvrir des lignes de bus ou de faire du tramway, il faudrait mettre des trottinettes en libre-service aussi dans
fait,
les banlieues.
C'est ça un peu le paradoxe, c'est de se dire, aujourd'hui, là où on voit une offre, alors on est dans une offre très libérale, c'est-à-dire en fait, on exploite l'espace public, on laisse faire l'exploitation de l'espace public par ces nouveaux opérateurs. Là où il y a déjà, les distances sont parfaitement marchables, en fait, dans l'essentiel des déplacements parisiens, il y a déjà la plus grande intensité de transport en commun, il y a déjà toute l'offre de vélos et ainsi de suite, et c'est là que viennent se rajouter les trottinettes. Alors qu'on pourrait imaginer, il y aurait de quoi rêver, effectivement, si on avait des systèmes, alors que ce soit de trottinettes en libre service ou des trottinettes en propriété individuelle, qui permettaient d'augmenter la portée des transports collectifs autour des stations de proches, moyennes et lointaines banlieues, où vous voyez très bien ce que ça donne. Si vous avez 5000 habitants dans un rayon de 15 minutes à pied autour d'une gare, si vous prenez 15 minutes de trottinette autour d'une gare, c'est plus 5000 habitants, c'est 20 000 habitants. Donc votre transport en commun, il va avoir plus de capacité. Alors encore faudrait-il qu'on anticipe, parce que si tous les usagers se mettent à prendre le train avec leur trottinette, on va voir des ennuis.
Adrien Leyève.
Alors moi je doute pas du tout que les trottinettes puissent être très très utiles en périurbain par exemple. Par contre, les entreprises qui se lancent, elles sont dans une simple logique de marché et elles vont aussi là où il y a une densité exceptionnelle. Si on se met à la place d'un entrepreneur qui se lance aujourd'hui dans la trottinette, il se dit Paris, il y a un terrain de jeu très très propice, je vais gagner de l'argent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se lancent aujourd'hui à Paris, mais en fait ce sont aussi des entreprises qui ont vocation à se lancer dans beaucoup de villes, parce que on parle de Paris qui est un peu un cas à part en France, parce qu'il y a une offre de transport exceptionnelle, etc. Mais si vous êtes un opérateur et que vous lancez à Reims, si vous allez à Angers, si vous allez au Mans, etc., les distances parcourues en moyenne sont finalement assez faibles. Et en fait, il y a un paquet de trajets qui peuvent être effectués parfaitement en trottinette, qu'elle soit électrique d'ailleurs ou en trottinette classique aussi.
Alors on va revenir justement sur cette densité de l'occupation par des sociétés privées de l'espace public, en particulier dans les centres-villes, enfin en tout cas dans les grandes agglomérations. Mais avant, je voudrais avoir la réaction d'Éric Le Breton sur cet usage de ces nouveaux modes de locomotion, notamment pour le périurbain.
Là, écoutez, je ne sais pas, pour le moment, c'est très difficile à dire, parce que il est même extrêmement difficile de commencer d'y implanter un peu sérieusement le vélo. Vous voyez, les élus ont énormément de difficultés à faire un petit peu de place au vélo sur le périurbain, y compris sur la première, la deuxième couronne. Donc, quant aux modes qui sont vraiment quasiment invisibles dans les centres, c'est difficile d'en parler. Cela étant, moi, je suis persuadé que au global, tous ces outils de mobilité alternative ont une place et auront peut-être une place. Alors la trottinette ou d'autres modes, on n'en sait rien, mais en tout cas, on sait qu'il y a une sacrée place à prendre entre être prisonnier de la voiture qui coûte très cher, qui est très stressante, les stationnements, l'essence, le péage, l'autoroute, etc. D'une part, entre être prisonnier des transports collectifs, en particulier à Paris. Les transports collectifs parisiens sont très efficaces et en même temps ils sont très aliénants. Et donc
oui, je vous écoute.
Oui, pardon. Et donc je disais que les utilisateurs de la trottinette sont peut-être un petit peu comme les utilisateurs du vélo. En définitive, quand on enquête les motivations du vélo, la motivation écologique, elle est proche de zéro. Après, il y a deux motivations qui apparaissent et qui sont mieux établies. C'est le vélo de bonne santé, d'une part, et le vélo des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais en tout cas, la motivation la plus importante, très très nettement, pour l'utilisation du vélo, c'est se redonner un petit peu de liberté, se recouvrer un petit peu d'autonomie personnelle et sortir de la prison de la voiture et de la prison du transport collectif.
Oui, parce que s'agissant d'ailleurs de la dimension écologique et de la dimension de bonne santé, en tout cas pour les trottinettes électriques, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Je disais en ouverture d'émission, alors c'est un chiffre qu'on voit pas mal circuler, mais la durée de vie moyenne d'une trottinette électrique aujourd'hui qui est mise en libre service, ça serait de 28 jours, donc un mois. mois. Ça veut dire que ça, c'est quand même très, très périssable. Et puis, pour la bonne santé, on fait pas vraiment d'efforts quand on est sur une trottinette. Mais je voudrais évoquer la question de l'occupation de l'espace public et de cette concurrence qui existe aujourd'hui. Donc, revenons à Paris. 9 sociétés, disiez-vous, Adrien Lelièvre, qui se font concurrence aujourd'hui pour essayer de rafler le marché. Parce qu'on peut imaginer que d'ici quelques mois, soit il en restera aucune, ou en tout cas, il y en aura moins, parce qu'il faut quand même pouvoir rentabiliser ces activités. Mais elles le font de manière un peu anarchique aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de privatisation de l'espace public? C'est-à-dire, on se sert des trottoirs qui appartiennent à tout le monde comme de places de parking, quelque part.
Si, bien sûr. En fait, il y a une stratégie du passager clandestin, finalement. C'est-à-dire qu'on déploie ces trottinettes sur les trottoirs dans l'espoir que les trottinettes soient ensuite louées. Sauf que l'espace public, il appartient à vous, à moi. Il appartient aussi à la mairie qui l'a construit, qui l'entretient au jour le jour. Et donc, en fait, on peut aussi comprendre que des villes exigent en fait de ces opérateurs qu'ils paient une redevance, parce qu'en fait, ils occupent illégalement les trottoirs. Si demain, moi, je veux ouvrir un food truck en bas de la maison de la radio à Paris, il y a de fortes chances que je doive payer une taxe pour cette activité.
Alors, il y a une discussion justement en ce moment au Conseil de Paris pour qu'il y ait une redevance qui soit payée par ces sociétés pour pouvoir construire des bornes auxquelles on fixerait justement ces engins pour que ça soit un petit peu moins, anarchique, comme je disais.
En fait, aujourd'hui, il y a une vraie crispation au sujet de la trottinette, parce que finalement, qu'est-ce que les détracteurs de ces entreprises leur reprochent? D'une part, elles reprochent à leurs usagers de laisser les trottinettes sur les trottoirs, et d'autre part, elles reprochent aussi aux utilisateurs de rouler parfois à vive allure sur les trottoirs. Après, moi, je pense que c'est un problème qui peut finalement se résoudre assez facilement si la ville s'aménage, tout simplement. Aujourd'hui, pourquoi les gens roulent sur les trottoirs? C'est souvent par défaut, parce que on se sent pas forcément en sécurité quand on roule sur la route avec une trottinette. Et c'est exactement le même phénomène qui se passe avec les cyclistes, et notamment les cyclistes enfants. Pourquoi les parents refusent parfois que leur enfant roule sur la route? Parce que c'est quand même compliqué d'être doublé, parfois à vive allure, par des voitures. Et l'autre problème, c'est le problème du stationnement. Effectivement, à Paris, la municipalité veut taxer les opérateurs pour construire en contrepartie des espaces dédiés au free-floating. Si demain, dans chaque rue de Paris ou dans chaque quartier, il y a des emplacements dédiés, en fait, une partie du problème qui est dénoncé par beaucoup de gens, c'est-à-dire l'occupation des trottoirs par les trottinettes, sera résolue, parce que les gens seront quand même incités à stationner leurs véhicules dans ces espaces.
Bon, c'est simple, du coup, Jérôme Monnet, c'est une question d'aménagement.
Oui, c'est une question d'aménagement, et c'est donc pas si facile, parce que les aménagements, ça implique toujours des gros investissements et d'une certaine façon des paris sur la longue durée. Alors que vous voyez bien le conflit de temporalité, on va dire, on a bien insisté sur le fait qu'on avait un phénomène qui avait une sorte de bulle, quoi. Enfin, en tout cas, une explosion d'un phénomène dont on ne sait pas si ça va pas être une bulle. Donc vous voyez tout de suite les enjeux en termes d'une programmation d'investissement pour des aménagements, des choix d'aménagement. Donc ça, c'est évidemment très compliqué pour la puissance publique. Alors, en même temps, il y a eu des occasions ratées dans le passé, concernant la façon dont on observait des usages, dont on voyait se développer des usages. Donc, auprès, comme vous l'avez rappelé, la trottinette, c'est un véhicule. Ça, donc, il y a toujours deux problèmes avec n'importe quel type de véhicule, qu'il soit petit ou gros. C'est où est-ce qu'on le fait rouler et où est-ce qu'on le stationne. Or, si vous regardez dans le passé, la crise sur le stationnement sur les trottoirs, on l'a eu avec les vélos en libre-service, on l'a eu avec les deux roues motorisées. Ça s'est quand même arraché les cheveux avec les deux roues motorisées pendant longtemps. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui, mais en le réinscrivant dans cette durée, qu'est-ce qu'on fait avec cette question du stationnement? Et ça touche à ce que vous disiez, privatisation. Parce qu'en fait, tout stationnement de véhicules sur la voie publique est une privatisation. Ce que rajoute
les voitures, d'ailleurs.
Mais bien entendu, c'est un particulier qui garde sa voiture, il a privatisé quelques mètres carrés en garant sa voiture. D'accord. La différence,
si
là,
c'est qu'il paye. Si le stationnement est payant, il paye. S'il est gratuit, il y a quand même des emplacements qui sont dédiés pour les voitures.
Exactement, mais il peut y avoir des stationnements en survoirie qui n'est pas payant. Dans ce cas-là, il ne paye rien du tout. Il a privatisé pour autant. Donc, les entreprises dont on est en train de parler, elles sont en train de faire de la marchandisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'elles vont au-delà de la privatisation, c'est qu'elles font du profit avec, qu'on s'entende bien. Alors après, la question des aménagements, c'est le cœur du débat actuel, donc c'est avec des controverses concernant la place pour la circulation comme pour le stationnement, c'est-à-dire est-ce qu'on doit allouer de l'espace au stationnement c'est-à-dire en quelque sorte encourager la privatisation, au sens où on va permettre d'abandonner ces véhicules-là pour qu'ils vont congeler des mètres carrés, sur le trottoir, au détriment du trottoir, au détriment de la voirie. Donc on rejoint les controverses qu'il y a eu à propos de la voiture, de la réduction de la place de la voiture ou des autres. Et puis concernant la circulation, ce que vous évoquiez, la question de est-ce que ça doit rouler sur le trottoir, est-ce que ça doit rouler sur l'infrastructure cyclable, est-ce que ça va rouler sur la voirie. Donc les pistes là-dessus, c'est la réduction. Alors, grosso modo, il y a la question de est-ce que tous ces modes, ces nouveaux modes, on va les assimiler, ce qui est le cas à peu près aujourd'hui, à des piétons. Donc leur place, c'est sur le trottoir au milieu des autres piétons, avec les problèmes qu'on sait. Est-ce qu'on les assimile à des véhicules, ils vont aller sur la chaussée, autre problème qui est évidemment le risque. Donc ici, la piste, c'est réduction générale, ce qui est une tendance, hein, de la vitesse en ville, parce que c'est vrai que si vous réduisez à 30 km/h la vitesse de tous les véhicules en ville, vous avez déjà réduit beaucoup le problème de la coexistence entre des vitesses différentes. Alors, le sujet, peut-être celui qui est critique aujourd'hui, c'est la place dans les infrastructures cyclables.
Oui, parce que si vous évoquez alors, en tout cas, la question, enfin le fait de dire qu'on les assimile à des piétons, il y a encore effectivement un flou. Alors, selon notamment la vitesse de circulation, ce que relève un certain nombre de piétons, notamment d'usagers des trottoirs, c'est que ça pose des problèmes de sécurité. Pour juste avoir une petite idée de ce que cela peut provoquer comme énervement, je voudrais vous faire écouter un court extrait d'une émission récente de Quotidien sur TMC où était invité le comédien Vincent Lindon, qui a souvent des occasions de s'énerver. Et là, pour lui, c'était « Mais qui a eu cette idée un petit peu stupide que de mettre en place ces trottinettes ?»
Peut-être qu'il y a quelqu'un d'un hôpital qui a téléphoné à la mairie de Paris en disant « On a besoin d'un quota d'accidents, là, c'est plus possible. Est-ce que vous n'avez pas une invention ?» Oui. J'ai une bonne idée. Une trottinette. Une trottinette où on roule très vite, généralement de préférence avec un enfant de 3 ou 4 ans qui est en retard pour aller à l'école. Boulevard Sébastopol à 25 à l'heure entre deux bus. Et surtout, surtout, je le demande à tous les Parisiens, sans gants, sans casque. Et je vais aider éventuellement l'hôpital. Je vais aussi faire dans le sens contraire. Je vais dessiner des petits vélos par terre. Et à demander aux gens d'aller très très vite pour éventuellement s'arracher les mains contre les rétroviseurs des voitures qui vont en face. Est-ce que vous avez votre idée ?
Bon, qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de cet extrait, de cette réaction, Adrien Lelièvre ?
Ce que ça m'inspire finalement, c'est que on parle beaucoup de ces entreprises parce qu'elles ont pris de vitesse les villes en quelque sorte. En fait, ce qui se passe avec les startups de trottinettes, c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec des entreprises comme Uber ou Lyft aux États-Unis qui ont chamboulé à la fois le marché du transport ou des taxis et les villes, ou plus récemment avec Airbnb qui a complètement aussi chamboulé le marché de l'hôtellerie et qui a aussi obligé en fait la ville à réagir. Donc en fait, on est dans une phase qui est un peu amusante parce que il y a des crispations, parce qu'il y a une forme d'inadaptation entre la ville et les nouveaux usages. Et je pense que il va falloir que les responsables politiques s'emparent aussi de ces questions pour essayer de réguler le phénomène.
Est-ce que c'est pas toujours un peu le cas, Éric Le Breton, et notamment en termes de mobilité, que les usages devancent toujours les décisions politiques pour les accompagner?
Écoutez, moi je reviens. Permettez-moi de revenir un petit peu à votre question précédente d'abord. Je vois mal les pouvoirs publics locaux faire payer des péages aux opérateurs privés pour leur utilisation de l'espace public. Parce que les pouvoirs publics sont très contents de pouvoir tester à pas cher, aux frais des opérateurs privés, la voiture Bolloré, le vélo, le scooter électrique, là maintenant les trottinettes électriques, de nouveaux systèmes de déplacement. Si ça marche, elles en récupèrent le bénéfice. Si ça marche pas, tant pis, c'est l'opérateur privé qui paiera les pots cassés et puis qui va se retirer. Les collectivités locales, elles ont un énorme problème en matière de mobilité. Il leur faut résoudre des problèmes vraiment de plus en plus difficiles, de plus en plus insolubles, et elles ont de moins en moins d'argent pour ça, puisque le peu d'argent qu'elles ont, elles le donnent au transport collectif, et que cet argent suffit de moins en moins, qu'elles sont obligées d'endetter les collectivités. Donc il y a un vrai problème. Après, ce que vous évoquez tout de suite, c'est vrai que c'est la tyrannie de la vitesse. tout simplement. C'est pas une tyrannie qui est nouvelle, c'est une tyrannie qui renvoie à la voiture. Et le piéton est toujours définitivement le dindon de la farce. Si vous voulez, c'est le rapport de force de celui qui va le plus vite et qui est le plus costaud. La voiture gagne contre le scooter, qui gagne contre la trottinette électrique, qui gagne contre le piéton. On en est là, donc c'est normal que Vincent Lindon et puis que des Parisiens et que des habitants d'autres villes s'énervent un petit peu, parce que le piéton est mis en danger, indiscutablement.
Est-ce qu'on n'a pas eu en effet, Jérôme Monnet, l'habitude de négliger un peu la place du piéton dans les politiques de mobilité? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est quelque chose... Je sais que c'est un thème qui vous est cher, hein, cette
oui,
question des piétons
bien sûr.
Et de la marche.
Bien sûr, on peut évoquer un peu le mythe de la vitesse. Moi, je remonte encore plus loin. Hein, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, c'est que à partir du XVIe siècle, s'impose en France une mode venue d'Italie, il y a des historiens qui ont montré cette espèce d'explosion, alors peut-être avec les rythmes de l'époque, mais c'est la mode du carrosse pour se déplacer en ville. Donc les élites entrent dans une logique de distinction et vont donc à la fois valoriser le fait qu'on puisse se déplacer en ville en carrosse, alors que du point de vue de la performance de déplacement, c'est nul. Hein, on fait du 3 km/h, mais la question n'est pas là, on n'est pas dans la vitesse, on est dans la distinction. Et puis, elles vont méthodiquement disqualifier la marche, comme un truc de plouc, comme un truc de fantassin. On va retrouver ces éléments de design. Et depuis lors, on a l'impression qu'on n'est pas sorti d'une espèce de supériorité intrinsèque de tout véhicule sur la marche. Donc, qui d'ailleurs, jusqu'à encore aujourd'hui, dans les mondes professionnels du transport, n'est pas considérée comme un mode de transport. Elle est une espèce de résidu, disons, éventuellement comprise comme le moyen de changer de mode de transport à l'intérieur d'une gare, mais on sacrifie un peu hein, le confort de l'usager, avec un résidu dans l'espace qui vont être les trottoirs. Les trottoirs, c'est l'endroit où on va mettre les marcheurs, on va dire, mais on va aussi mettre les plantations végétales, on va y mettre les poubelles, on va y mettre les véhicules en stationnement. Enfin, donc le trottoir se retrouve un peu le résidu, hein, alors que la chaussée, ça, c'est du sérieux, ça, on va pas l'encombrer avec quoi que ce soit. Donc, il est clair qu'il y a quelque chose de cela, et d'une certaine façon, notre effervescence autour de la trottinette nous rappelle hein, cette espèce de fascination qu'on a pour les véhicules. Alors, Éric Le Breton a raison de dire fascination pour la glisse, fascination pour la vitesse. Moi, je mettrais la question de la distinction en jeu là.
Éric Le Breton, la marche, c'est encore un truc de plouc et le trottoir, c'est un peu quelque chose que l'on néglige, en tout cas que sur lequel on met tout ce qu'on ne veut pas mettre ailleurs pour ne pas, encombrer la chaussée.
Oui et non. Oui, parce que je viens de le dire et je suis d'accord avec Jérôme Monnet, le piéton est toujours celui qui est mis en danger. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup d'accidents graves, il n'y a pas forcément beaucoup de morts et heureusement, mais il y a beaucoup de sensations d'insécurité, puis de sensations d'être envahi par des gens qui vont beaucoup plus vite que vous. Après, il ne faut pas exagérer non plus, parce que en même temps, le piéton reste la grande figure et de plus en plus grande de toutes les politiques d'aménagement urbain, parce que en définitive, on commence d'accorder pas mal de vraies places aux piétons. Les plateaux piétonniers sont de plus en plus importants. Il y a tout un ensemble d'aménagements qui réservent un petit peu plus de place aux piétons. Alors le problème, c'est que on le protégeait de la voiture. Ça marche plutôt pas mal, et voilà que maintenant, il y a la trottinette, il y a l'overboard, il y a tous ces trucs qui sont des sortes de piétons rapides. Alors on ne sait plus très bien comment poser le problème. Le problème, me semble-t-il, c'est que l'espace de circulation en ville n'est régi que par le code de la route. Il n'y a que ça. Et il est plus que temps de pouvoir... Alors, il y a eu le code de la rue. Plusieurs municipalités, plusieurs agglos ont fait voter des codes de la rue qui réservaient un petit peu plus de place aux piétons, mais rien de très très solide. Il serait temps quand même de penser un nouveau code de l'espace public qui est valeur de loi et qui ne prenne pas en compte simplement la voiture, mais le vélo, sérieusement, mais tous les autres modes et bien évidemment le piéton.
Et on pourrait imaginer de passer un permis de trottoir, par exemple. Je ne sais pas si ça serait envisageable, Adrien Lelièvre.
Ce qui est certain, c'est que les piétons sont effectivement les premières victimes quand il y a des objets, quels qu'ils soient, sur les trottoirs, parce que ça entrave leur déplacement. Et c'est d'autant plus problématique qu'effectivement, les villes encouragent de plus en plus la marche, parce que la marche a beaucoup de vertus, notamment en matière de santé. Par contre, tout à l'heure, on parlait du piéton qui serait un plouc. Bah, déjà, je ne pense pas que ce soit le cas, évidemment. Après, je ne pense pas que les distances parcourues par les piétons et par les usagers de la trottinettes soient les mêmes. Par exemple, moi j'étais en contact avec une des startups de trottinettes présente à Paris qui s'appelle Voy. Le trajet moyen en trottinette à Paris, c'est 17 minutes. 17 minutes, c'est quand même pas rien, sachant que ce sont des véhicules qui permettent d'aller jusqu'à 25 km/h. Ça permet, grosso modo, de parcourir une distance de 4 à 5 km pour un trajet. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de piétons qui, dans leur déplacement quotidien, font un tel déplacement, en fait, font un tel trajet. Donc je suis pas sûr que, en quelque sorte, l'usager de la trottinette va vraiment désinciter, finalement, les gens à marcher.
Jérôme Monnet.
Oui, pour synthétiser, en fait, je dirais que ce qui va être en jeu, c'est de réussir à faire une politique et d'urbanisme, c'est-à-dire d'aménagement des espaces, et de transport pour favoriser et soutenir la mobilité, l'accessibilité et l'autonomie. Et pour le dire très très vite, dans ces enclaves piétonnières, parce que malgré tous les efforts et les investissements depuis 50 ans, depuis les premières rues piétonnes jusqu'à aujourd'hui, les plateaux piétonniers, les secteurs sauvegardés, etc., ça reste des enclaves où le piéton est roi, hein, les zones touristiques, les zones commerçantes, les centres. Alors ça se démultiplie, et donc même les, on va dire, des petites communes de banlieue vont avoir leur petit centre piétonnier, etc., mais c'est discontinu. Et c'est clairement pas là que la trottinette va être la plus performante, la plus intéressante pour la collectivité, pour offrir de l'autonomie, de l'accessibilité. Donc, pour moi, le grand enjeu, il est là. C'est-à-dire, les trottinettes, elles ont rien à faire sur les trottoirs. Les trottinettes, toutes les autres formes, hein, dont elles font l'emblème, elles ont à aller sur la chaussée avec tous les autres véhicules, avec des vitesses générales, ou comme vous dites, 25 km/h. De toute façon, c'est à peu près la vitesse moyenne pour les vélos, pour les trottinettes, pour les voitures, pour les camions, etc. Donc, on pourrait tous les mettre sur la chaussée. Ça offrirait une grande... Alors, il y a des questions, des enjeux de réaménagement en termes de partage de la chaussée entre cette variété de véhicules. Et puis considérer qu'on va soutenir cet usage, celui de la trottinette, pour favoriser l'autonomie des catégories sans voiture, sans permis, des jeunes, des ados. Enfin, et donc, on va développer la trottinette dans les banlieues et pas dans les centres-villes.
Alors, ce qui est intéressant, finalement, avec cet objet assez banal qu'est la trottinette, c'est qu'on voit que ça révèle plein de choses sur l'organisation de la société, les différences entre les territoires, la question de l'aménagement urbain, la question de l'incivilité, question de santé, question de vitesse avec laquelle on veut faire les choses. Et puis, il y a aussi une question qui est d'ordre plus social, disons, avec de nouveaux métiers assez merveilleux qui apparaissent. Je voudrais qu'on termine juste là-dessus. On n'a plus beaucoup de temps, Adrien Lelièvre. Les Joycers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Eh bien, ce sont les salariés auto-entrepreneurs en fait qui rechargent la nuit les trottinettes. Donc le jour, les Parisiens utilisent les trottinettes, mais le soir, en fait, il y a cette espèce de sous-prolétariat qui récupère les trottinettes, les emmène parfois chez eux, les recharge et les redéploie le lendemain matin, souvent aux emplacements stratégiques pour que ils puissent de nouveau être utilisés. Donc en fait, il y a une gestion vraiment dynamique de la flotte dans le sens où chaque nuit, la plupart des opérateurs retirent leurs trottinettes pour mieux les redéployer, recharger et si possible réparer pour que la trottinette fonctionne correctement le lendemain matin.
Voilà, et Joyce, ça vient de l'argot, c'est de l'anglais, ça veut dire électricité, je crois. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les appelle les Joycers, ce développement d'un sous-prolétariat urbain. Voilà, c'est la face cachée, on va dire, de ces véhicules en libre-service. Oui, Adrien Lelièvre.
Je voudrais pas non plus aussi qu'on soit obsédé, entre guillemets, par les entreprises de trottinettes qui sont lancées à Paris, mais aussi à Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Parce que au-delà des startups qui peut-être échoueront, on sait pas, peut-être que dans deux ans, on fera la même émission et on dira, ah, c'est incroyable, le secteur s'est cassé la gueule. Au-delà de ces entreprises, il y a aussi des milliers de Français qui s'équipent avec leurs propres trottinettes. Aujourd'hui, la Fédération française des micromobilités a publié ses chiffres 2018 et sont vraiment spectaculaires. C'est-à-dire qu'en 2018, il y a 232 000 trottinettes électriques qui se sont vendues. À titre de comparaison, il y a à peu près 30 000 voitures électriques qui sont vendues. Et en 2017, il y a à peu près 250 000 vélos électriques qui se sont vendus. Donc en fait, la vraie lame de fond, finalement, dans les transports en matière électrique, c'est plutôt la trottinette ou le vélo électrique et pas forcément la voiture.
Oui, mais souvenez-vous de ce qui est devenu la trottinette de Jérôme Monnet. Hein, elle est restée dans un placard. Hein, on la voit plus dehors.
C'est pas une affaire juste franco-française. Hein. Il faut aller regarder du côté des usages, des politiques mises en œuvre ailleurs dans le monde. Hein. On n'en a pas parlé au cours de l'émission, mais il se passe des tas de choses dans le monde concernant les phénomènes dont on a parlé.
Vous voyez, avec un sujet comme ça qui peut paraître très ludique et très accessoire, on dit plein de choses. Merci beaucoup Jérôme Monnet, Éric Le Breton et Adrien Lelièvre. Les références des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Ledoux, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Élise Le.